Bienvenue dans cette deuxième partie de C'est dans l'art, l'émission de recommandations culturelles de Radio Campus Paris. Dans la première partie, nous vous avons conseillé le jeu Mio Memories in Orbit. Nous avons parlé de l'annulation du festival de BD d'Angoulême et nous avons fait le tour de l'actualité avec Violette. Maintenant, place à l'architecture, la sculpture et les arts visuels. Autour de la table, il y a Diane, Hortense, Hugo, Violette et Vladimir.
Bande dessinée,
jeux vidéo et multimédia.
Cinéma.
C'est dans l'art
sur Radio Campus Paris.
Deux galeries, une même entrée. Hortense, tu as parcouru ces galeries du Grand Palais. Dis-nous ce que tu gardes des œuvres de Claire Tabouret et Eva Jospin.
Et oui, Eva Jospin et Claire Tabouret sont exposées au Grand Palais pour deux expositions jusqu'au 15 mars. Alors, bien qu'on en ait pas mal entendu parler, je me suis dit que j'allais vous donner le bon conseil sur est-ce que, oui ou non, ça vaut le coup. On commence par le basique, qui sont ces deux artistes contemporains. Toutes deux françaises, Claire Tabouret est la lauréate du concours du ministère de la Culture pour les vitraux de Notre-Dame et Eva Jospin est, elle, diplômée des Beaux-Arts de Paris depuis 2002 et base son travail sur la sculpture du paysage et de la nature. L'un dans l'autre, malgré deux expositions au médium et au thème très différents, elles semblent se compléter. L'une peint des individus, l'autre sculpte des paysages. De même, dans l'identité plastique des œuvres, Claire Tabouret a une pratique très influencée par la couleur qui rythme les scènes de dessin qu'elle propose, tandis qu'Eva Jospin utilise uniquement du carton brut offrant un nuancier de marron. L'histoire racontée dans les deux expositions reste cependant relativement la même. On parle de mythologie et de légende, autour de l'exploration des thèmes religieux liés à la cathédrale pour Claire Tabouret et de la légende d'un jeune romain tombé par hasard dans une cavité où il découvre des fresques oubliées de la Domus Aurea pour Eva Jospin.
Bon, et les expositions, tu peux nous les détailler un peu plus ?
Oui. Elles prennent place dans deux grandes et longues salles qui sont comparables à des nefs. Personnellement, j'ai commencé par Claire Tabouret. Et pour être totalement honnête, moi j'ai pas du tout compris le concept de l'expo, car je m'attendais à voir les vitraux, pas les vitraux avant qu'ils soient exposés. Pour dissoudre tout malentendu, ce ne sont pas les vitraux, ce sont les dessins préparatoires exposés dans la forme des baies de Notre-Dame. Une fois passée la déception de ne pas voir de verre ce jour-là, l'expo, je trouve, est quand même réussie. Les dessins sont grandeur nature, avec un éclairage zénithal qui les illumine. Concernant les œuvres, honnêtement, ça marche. On est dans la tradition du vitrail. Claire Tabouret utilise un langage figuratif basé sur la figure humaine et propose un univers coloré qui fait écho à l'histoire des vitraux. En plus, les couleurs sont réfléchies en concordance avec l'environnement futur des œuvres, c'est-à-dire une cathédrale. Ainsi, cette exposition prend par les sentiments avec l'expression d'une méditation un peu mystique.
Et les points négatifs, il doit bien y en avoir.
Clairement, l'absence du verre. J'imagine que pour plein de raisons, on peut justifier cette absence. Néanmoins, j'aurais aimé voir les vrais vitraux avant qu'ils soient hauts dans Notre-Dame. L'expérience de la lumière sur le verre nous fera vivre, je pense, ces œuvres d'une manière très différente. Donc oui, je suis un peu déçue quand même.
Et pour Eva Jospin ?
Honnêtement, cette expo est impressionnante. Ici, justement, la technique prend toute l'attention. La proposition technique d'Eva Jospin, c'est l'utilisation de milliers de couches de carton, de la structure des sculptures au détail. Elle sculpte des architectures, des fabriques, des tableaux et des paysages grandeur nature. La déambulation dans l'espace d'exposition est comparable à une marche dans la nature et on peut se perdre pendant des heures à observer chaque détail de la réalisation. Presque comme un jeu. Je vous conseille d'ailleurs d'y aller accompagné pour déployer votre imagination dans l'espace.
Et cette fois, tout est parfait.
Si rien n'est jamais parfait, je dirais juste que le récit de l'exposition est un peu écrasé par la technique. Après, je crois vachement au choc esthétique et à la substitution des mots pour la compréhension des œuvres, donc perso, ça m'a pas dérangé.
Et un mot pour la fin ?
En bref, ces deux expositions, je vous conseille d'y aller. C'est l'occasion de découvrir des femmes artistes auxquelles on ne peut pas reprocher d'être trop conceptuelles. Néanmoins, comme tu l'as dit tout à l'heure, je vous conseille de prendre vos places en avance, car devant le palais, il y a la queue. Et allez-y, s'il vous plaît, hein, si vous en avez la possibilité surtout, un matin en semaine, car ce sont des petits espaces où il doit être bien plus agréable d'être peu. Claire Tabouret et Eva Jospin sont au Grand Palais jusqu'au 15 mars. C'est 12 euros en tarif réduit et 15 en plein.
Tu viens de me rappeler la fois où je suis allé au Grand Palais, il y avait tellement de monde. Qui pense quoi ? Vladimir, toi que tu l'as fait, tu l'as
ouais.
Je fais passer tout le monde d'abord et toi ensuite.
Ça marche.
Diane ?
Moi c'est marrant parce que le truc des vitraux, ma mère elle y est allée et elle a beaucoup aimé.
Okay.
Je suis quand même curieuse.
Qui est en régie.
Oui, qui est en régie, qui vient assister à l'enregistrement aujourd'hui. Mais du coup, je suis quand même curieuse d'aller voir l'expo pour faire mon propre avis. Et je suis curieuse des sculptures en carton aussi, de voir, parce que je sais pas, j'ai peut-être un imaginaire un peu soft, mais je me dis c'est un peu, c'est pas hyper curieux, impressionnant, mais du coup je suis curieuse d'aller voir vraiment en vrai ce que ça donne.
Ouais, franchement, il y a un travail de fou sur le carton. Enfin, c'est là comme ça, on peut s'imaginer quatre bouts de carton qui font des cabanes, mais pas du tout. Vraiment, non, pas du tout. Genre, enfin, c'est des architectures, c'est des énormes maquettes. Enfin, c'est vraiment impressionnant. Donc, tu imagines le nombre d'heures à passer à faire ça. Okay. C'est... Et ouais, pour Claire Tabouret aussi. Je pense que quand tu t'attends pas à voir du vert, t'es pas déçu.
Hugo.
Bah, en vrai, quand t'as dit qu'il y avait pas de vert, j'avoue, moi, c'était un peu en mode genre. Mais je veux voir les vitraux. Et, mais là, comme tu vends le truc, genre, ça a l'air d'être immense. Bah, ça donne envie d'y aller en vrai.
Violette ?
Ben moi, c'est vraiment cette expo que j'essaye de voir depuis des semaines, comme toi. Oui.
C'était complet.
Et tout est complet.
C'est
vraiment,
un truc de
ouais,
taré.
Vraiment, c'est complet toutes les semaines. Ouais, et en plus, je peux malheureusement pas y aller en semaine. Donc bien sûr, les week-ends, c'est pris d'assaut. Mais je veux trop la voir. Je n'ai entendu que du positif de cette expo. Et justement, apparemment, on m'a parlé aussi du contraste entre un peu la lumière des vitraux et un peu le sombre des grottes, du carton, qui est aussi assez beau à voir. Et je pense que du coup, la curation a l'air assez belle en elle-même. Donc non, un jour, j'y crois, j'espère, je vais arriver à rentrer dans le Grand Palais.
Touche du bois, touche du bois.
Oui, oui, j'y crois.
Le chanceux qui l'a vu.
Ouais, du coup, moi, j'ai eu la chance de la voir. Ouais, je suis très d'accord avec ce que tu as dit, Hortense, sur toute l'analyse un peu des deux expos. Pareil, un peu de déception avec Claire Tabouret, justement, en me disant, bah ouais, ça manque peut-être un peu de contenu, peut-être un peu de profondeur un peu dans ce que ça pouvait montrer, et puis d'immersion, quoi. Et pour Eva Jospin, bah tout à fait pareil. Il y a énormément d'immersion dans ça. Le seul truc que moi j'aurais à dire, c'est que c'est le genre d'œuvres pour Eva Jospin qui sont tellement monumentales, avec cette espèce de truc où on dirait parfois des tableau de Beksinski, je ne sais pas si vous voyez, cette espèce d'artiste polonais qui faisait des tableaux totalement avec architecturaux totalement fous et tout. Mais par contre, je me demanderais vraiment si ça serait pas mieux dans une cathédrale, dans une église, dans un couvent, dans un monastère, pour vraiment, parce que parfois c'est un peu froid le Grand Palais en termes d'exposition. On voit vraiment ces œuvres-là posées sur du blanc, éclairées de manière un peu bizarre, etc. Même si les œuvres sont vraiment magnifiques, je me dis si jamais on les intègre, et ce qu'elle a fait déjà, Eva Jospin dans notamment bon nombre d'expos, si on les intègre dans un endroit déjà un peu monumental qui reprend un peu ces codes-là, des voûtes, des machins. Je pense que ce serait un truc incroyable à voir.
Non, je voulais juste ajouter que pour l'instant, les vitraux, enfin, je ne sais pas si vous avez vu, mais les vitraux ne peuvent pas être posés encore, car il y a une association qui a déposé une main courante, je crois, pour ne pas que les vitraux soient mis. Enfin, une
ah oui, ils
ne
sont pas contents du design.
Non, exactement, ils ne sont pas contents du design, qu'ils les trouvent trop modernes, trop contemporains. Donc,
alors que c'est soft quand même, ça va. Ouais. C'est pas... Mais moi, je suis assez d'accord sur Eva Jospin. En sortant de l'expo, j'ai eu ce sentiment un peu justement, le fait que ce soit posé dans un espace blanc comme ça, t'es un peu justement pris par la technique et presque un peu, enfin c'est très agréable, mais presque un peu trop. Quand je suis sortie, j'étais un peu genre, en fait, j'ai pas, enfin je pense qu'il faut y aller deux fois, j'ai pas tant réfléchi à l'exposition et les œuvres en elles-mêmes, la technique a pris toute la place. Et je pense que c'est aussi l'espace tout blanc qui remet en exergue le carton, qui ressort et qui du coup te prend tout ton esprit, mais c'est très agréable, mais peut-être y aller deux fois si on veut deux expériences esthétiques.
Ouais, déjà, faut réussir à y aller une
voilà,
fois.
C'est ça.
C'est le jeu vidéo le plus dur pour la culture, c'est de rentrer au jeu de
combat.
Flexez pas trop, s'il vous plaît.
Eva Jospin, Grotesco, Claire Tabouret, D'un seul souffle au Grand Palais jusqu'au 6 mars prochain. Mars.
C'est dans l'art, le magazine d'actualité culturelle de Radio Campus Paris.
Diane, tu es allée à la Maïf Social Club pour ta recommandation culturelle en sculpture.
Se perdre dans la grande bleue jusqu'à l'horizon, rêver d'infini, d'indolence, d'aventure, se laisser envahir par d'insondables possibles. Combien sont partis à travers les âges, affronter sa houle, sans carte ni boussole, guidés par le goût du large, le désir de conquérir ses richesses ou l'espoir de se réinventer sur d'autres rivages. Terreau de nos civilisations, héroïne de nos mythes, de nos imaginaires, la mer s'impose comme l'expression paradoxale de notre rapport à la nature, entre contemplation et exploitation. C'est avec ces phrases que s'ouvre l'exposition « Voir la mer » présentée aujourd'hui au Maïf Social Club. Elle nous invite à questionner la place de cet infiniment bleu dans notre quotidien. Grâce à plusieurs installations et sculptures sur le thème de l'océan, elle nous invite à nous poser ces questions.
Et si l'océan pouvait nous parler, que nous dirait-il ? Qu'est-ce que cet grand bleu et imperturbable océan pourrait nous communiquer comme message ? Quel rapport nous avons à cet espace qui prend 70% de la surface de la Terre ?
En pleine révolution climatique, où la nature et les fonds marins sont de plus en plus en danger, cette exposition nous emporte dans des réflexions environnementales plus que nécessaires en 2026. Entre toutes les installations, il y a notamment celle menée par l'association Bloom. On écoute Claire Nouvian nous en parler.
Il s'agit de spécimens qui sont issus des océans profonds que j'avais collectés auprès de laboratoires de recherche partout dans le monde. Et ce sont des spécimens excessivement rares. Lui, par exemple, s'appelle le grand gousier et qui a une mâchoire qui peut se détacher de façon à avaler un animal beaucoup plus grand que lui. Et ce qui montre qu'il y a une adaptation extrême, physiologique parfois, des animaux des abysses à la pénurie de nourriture dans les grandes profondeurs. Ces écosystèmes sont vides. Malmenés, pollués, on a poussé notre avantage un peu loin dans des logiques extractivistes. J'espère que ça va interpeller le public.
Entre des installations sur les déchets marins, une sculpture en ordure représentant une jeune femme qui prend le soleil ou encore des vagues représentées par de longs tissus bleus et gris, c'est ce que dit Claire dans cette interview. Cette exposition nous interpelle. Elle m'interpelle. Elle me questionne sur qui je suis face à cet océan, face à cet espace si apaisant à mes yeux, mais aussi profondément terrifiant. Les abysses, les vagues ou encore cette eau salée, elle me questionne. Quand j'étais au collège, moi j'ai passé de nombreuses de mes vacances à l'île de Ré avec ma mère. Et cette île m'apaisait. Elle faisait partie de mes moments de décompression parce que je pouvais rester des heures sur un des ponts de l'île de Ré à regarder l'océan jouer avec les vagues. Les mouettes volaient au-dessus et se laisser porter par le vent. Sentir le vent salé sur ma peau, tout était apaisant. C'était un moment hors du temps et surtout hors des problèmes. Et en même temps, un moment où je pouvais prendre le temps de poser les choses, d'analyser ce qui me tracassait, d'imaginer le futur, de poser mon cerveau pour me concentrer sur le présent. Et je sais que plus le temps passe, plus cette île va être en danger. Et elle subit du tourisme de plus en plus destructeur, elle perd du territoire via la montée des eaux et se fait engloutir par le réchauffement climatique. Je crois que cette exposition a eu le même effet sur moi, me questionner sur ma place, sur ma place dans ce monde. Alors qu'on y voit des effets du réchauffement climatique, les effets de la surpêche, de la mondialisation et de la pollution sur les fonds marins, je me suis dit...
Et si tous mes petits problèmes n'étaient que vains face à cet océan qui sera là pour toujours ?
Alors que nous sommes à quelques pas de la place des Vosges, moi j'ai cru un moment que la mer m'avait embarqué, que j'avais été emporté par les embruns, qu'une sirène de la Seine m'avait attrapé par les bras pour me plonger dans ces abysses et me confronter à ces questionnements.
Si l'océan pouvait nous parler, il nous dirait quoi selon vous ?
Il dirait « c'est un cycle ». Vous disparaîtrez avant moi. Moi, je m'en remettrai, mais pas vous.
Voir la mer jusqu'au samedi 25 juillet à la Maïf Social Club. C'est dans le Marais, dans le 3e, pas très loin d'ici, de Radio Campus Paris, 37 rue de Turenne. Hortense.
Bah, moi, quand j'écoute ta chronique, justement, ça me... Enfin, en fait, je trouve ça intéressant d'avoir une exposition qui va parler d'un motif qui est la mer. Et en fait, j'espère, j'ai pas vu l'exposition, mais j'espère qu'elle fait un lien quand même, et c'est ce que ça a l'air de faire, un lien politique, en fait, aussi sur l'environnement, etc. Parce que c'est ce qui m'a déçue dans les dernières expositions en lien avec l'environnement, notamment au Palais de la Porte Dorée, au Musée d'Immigration, là, exposition qui est encore en cours, où le mot capitalisme n'est même pas prononcé une fois, en fait. Donc, tu te dis, on parle d'environnement, on parle pas du problème. Donc là, c'est pareil. J'espère qu'il y a quand même un projet politique dans le discours muséographique aussi. Et je trouve ça intéressant aussi de jouer sur cet imaginaire qu'est la mer justement, en fait, qui est aussi inconnu encore. Ouais. Et là, j'aimerais faire un parallèle parce que c'est une amie qui est en littérature qui m'en a parlé hier. Sur le ciel, à l'inverse, il y avait dans la littérature, avant la connaissance du ciel et les avions, etc., vraiment plein d'imagination, des trucs hyper poétiques, etc. Et quand on a commencé à penser le ciel et en fait à... de comme un lieu où on va se déplacer avec les avions, etc., c'est devenu un truc hyper mécanique, hyper on va l'utiliser et c'est good. Et en fait, je me dis, bon, bah, on a encore la chance d'avoir un peu de poésie sur la mer parce qu'on la connaît pas encore totalement, donc profitons de pouvoir encore avoir un regard poétique sur le monde.
Vladimir.
Oui, ça a l'air très touchant comme expo et j'ai eu la chance de pouvoir naviguer un petit peu dans ma vie et de me rendre compte de à quel point l'océan convoque énormément de fantasmes, notamment parce que la mer est toujours changeante, c'est jamais la même chose, qu'elle soit plate, qu'elle soit d'huile, qu'elle bouge, et en fait et c'est vraiment un monde dans lequel on peut vraiment plonger et je suis d'accord que cette alternance entre à la fois la poésie qu'inspire la mer, ce sentiment d'être tout petit face à quelque chose qui est aussi immense, parfois prend un peu trop le pas sur ce qu'on est en train d'en faire et que même cette immensité-là qu'est l'océan, il subit les impacts de notre activité. Donc du coup, réussir à conjuguer un peu ces deux choses-là, c'est hyper important.
Violette ?
Tant de choses à dire. Déjà, Claire Nouvian, elle mène un combat vraiment intense Et elle est menacée de mort. Enfin, vraiment, elle est contre les lobbies de la pêche. Donc, vraiment, beaucoup de force à elle. Elle mène un combat vraiment fort. Et au-delà de ça, l'année dernière, c'était l'année des océans. Je ne sais pas si beaucoup de monde le savait. Il y a eu une conférence internationale à Nice sur les océans qui a beaucoup déçu avec des résultats politiques vraiment pas à la hauteur, encore une fois, portés par Claire Nouvian en grande partie. Et je trouve ça bien, du coup, de passer par le médium artistique, justement pour convoquer les imaginaires des gens, parce que tout le monde a un imaginaire avec la mer, en fait. On a tous une expérience, un moment de notre vie qui s'est passé avec la mer, un souvenir. Et donc, c'est vrai que convoquer cet imaginaire, ça peut aussi être un moyen de faire bouger les lignes d'une autre manière, en fait. Donc, j'espère que ça pourra apporter une petite pierre à l'édifice.
Hugo ?
Déjà, moi, je dois dire que tu m'as donné très envie d'aller faire l'exposition. J'aime la mer, j'aime l'eau, je suis quelqu'un qui aime bien nager, donc ça m'a beaucoup touché le fait, comment t'as présenté les choses. Effectivement, j'espère que quand on parle d'eau, en fait, d'océan et de réchauffement climatique, on parle de capitalisme.
On en parle, ça peut vous rassurer, on en parle.
Non, parce que j'avais fait le musée de la marine qui est situé vers le Trocadéro, ouais. Et au contraire, là, c'est beaucoup plus plat, en fait. Ouais. Beaucoup plus lisse, donc comme on dit, save the bee, plant more tree, clean the sea, punch nazi.
Sculpture,
littérature,
musique,
c'est dans l'art sur Radio Campus Paris.
Je suis retourné à la Cité de l'architecture et du patrimoine. Si vous avez suivi mes pérégrinations parisiennes, je me suis plaint de l'expo Paris 1925, cette expo à Paris dans le 16e, à Trocadéro, au deuxième étage. L'ascenseur, la belle salle blanche, la vue sur la tour Eiffel, tout ça, je vous ai raconté tout ça. J'y suis retourné parce que je vous ai dit que l'architecture semble être abstrait pour nos bénévoles de C'est dans l'art. En plus, je vous avoue que j'ai littéralement vu l'expo entre deux trains, le dernier train pour l'architecture en quelque sorte. Bref, nous sommes ce soir au premier sous-sol de la Cité de l'architecture et du patrimoine, dans la galerie des expos temporaires, voire quartier de demain au pluriel. Quartier de demain, 10 villes de France métropolitaine, 10 quartiers, 30 projets et un an de réflexion. D'abord, j'ai envie de vous dire que j'ai respiré en arrivant de la lumière, des couleurs vives, des belles maquettes d'architecture, mais aussi du texte écrit en gros, des photographies et des vidéos. Entrez dans une galerie en longueur, un long couloir et vous avez plusieurs étapes. Au moins 10 étapes, et à chaque arrêt, sa ville, son quartier précisément et les 3 projets proposés. Quartier de demain, c'est quoi ? Je vais tenter d'expliquer simplement quelque chose qui ne l'est pas. Après la guerre, l'État a fait le choix de construire des immeubles très rapidement pour, entre autres, loger les Français revenus d'Algérie, les grands ensembles, si ça vous parle. La suite, repenser ces quartiers qui ont mal vieilli, qui se sont fermés sur eux-mêmes et dans lesquels des effets néfastes se sont développés. Aujourd'hui, l'État et ce qu'on appelle les établissements intercommunaux, je fais vraiment très simple, gèrent l'aménagement du territoire et la politique de la ville. Les quartiers en question sont considérés comme prioritaires avec un programme de renouvellement urbain. Le but de cette expo, montrer comment est conçu le futur de ces quartiers. Nous sommes en Alsace, à Colmar, en Île-de-France, à Corbeil-Essonnes, en Normandie, à Caen ou en PACA, dans les Bouches-du-Rhône. Une scénographie réussie et qui donne envie. À chaque étape, une description du quartier existant, de belles photographies de la vie dans ce lieu singulier et 3 maquettes qui représentent les projets des groupements de l'architecte, des architectes, d'ingénieurs et d'autres spécialistes présents pour imaginer le futur de tous ces lieux de vie. Ensuite, le fond est tout aussi intéressant. Si je prends l'exemple de Corbeil-Essonnes, l'idée est de repenser tout un quartier autour d'une ancienne chaufferie. Arrive la question des espaces publics, des espaces verts, des services à la population, mais aussi de la vie de quartier, la vie associative, ainsi que la vie culturelle. Ce qui est très fascinant dans cette démarche, c'est que le jury se compose d'élus, de représentants de l'État, d'autres acteurs tout aussi importants, mais surtout de citoyens, d'habitants de ces quartiers. Ils sont consultés pour penser l'avenir de leur territoire, de leur chez eux. Les jeunes des écoles, mais nous les générations X, Y, Z, millennials, mais aussi nos aînés, tout ce beau monde, croisent le regard, posent leurs questions et donnent leur avis pour décider ce petit monde de demain. Ça parle même de résilience climatique, quelque chose qui est de moins en moins dans l'air du temps, ce qui est dommage. Au fond, Quartier de Demain m'a fait du bien parce qu'elle m'a rappelé ce qu'il se passe dans la ville de mon enfance. Les barres d'immeubles effrayants et insalubres ont laissé place à de nouveaux bâtiments à taille humaine, entourés d'arbres. Parcourir l'expo Quartier de Demain, finalement, c'est observer ce que va être le futur de nos villes construites par nous-mêmes. Quartier de Demain, l'expo temporaire à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, au sous-sol jusqu'au 30 mars. Je ne peux que vous conseiller d'aller voir cette expo. Il y a un petit plus à la fin d'ailleurs. Si vous vous demandez pourquoi certaines constructions sont étranges, passez voir la fresque au milieu de l'expo. Après l'avoir vue, vous dormirez moins bête. Je t'ai vu bouger beaucoup, Hortense.
Bah non, mais c'est un sujet qui m'intéresse. Donc déjà, il semble que les Stylos d'Architecture écoutent tes chroniques et prennent en note tes commentaires. Et bah évidemment, moi, c'est des sujets qui m'intéressent. Les grands ensembles, il y aurait tant à dire, que ce soit sur l'organisation paysagère. Tu as touché cette question. À l'époque, c'était vraiment pas une question. Mettre des arbres, c'était le dernier truc du budget qu'on mettait. Donc, il y avait quatre pauvres arbres dans les cités. Et pareil aussi, et je trouve qu'aujourd'hui, une question qui se pose aussi, c'est la position de l'architecte dans la construction de nouveaux grands ensembles. Un idéal pour un architecte aujourd'hui, c'est d'être au 15e étage et d'avoir une belle vue. Quand tu as des enfants qui peuvent tomber du 15e étage, c'est pas ton idéal du tout. Donc, je trouve qu'il y a des questions sociales et évidemment, l'interrogation des habitants semble être indispensable dans cette démarche. Et donc, cette exposition me donne envie parce que si tu me dis que les projets sont intéressants, que l'exposition est bien faite, etc., mais j'ai très envie d'aller voir ça.
Hugo.
Je vais être un peu plus critique, je pense, parce que...
Je m'en doutais, j'en étais sûr, certain, je le savais.
Pourquoi ? Ouais.
Des balles.
En fait, bon, le problème que j'ai, c'est que oui, c'est important de prendre en compte les habitants, mais qui sont les habitants qui vont parler en priorité ? Ce ne sont malheureusement pas les personnes les plus défavorisées, les personnes des catégories populaires. On parle souvent de gentrification, mais je pense que ça pose la question de la gentrification. Qui sont les personnes qui viennent parler ? Qui sont les personnes qu'on interroge ? En tant que c'est mon regard un peu sociologue critique, je pense que la démarche est louable, mais interrogeable. J'ai envie d'y croire, mais dans la période où il y a quand même une forte gentrification, notamment à Paris, je ne peux pas m'empêcher d'être un peu inquiet.
Alors, pour la partie gentrification, c'est pas la même chose. On parle pas vraiment de la même chose. Quartier de Demain, c'est vraiment des quartiers qui ont quelque part été abandonnés et qui font partie d'un programme de renouvellement urbain. Hortense.
Et sur le participatif, moi, ce que je tiens à dire aussi, c'est que c'est une bonne démarche parce que les gens qui habitent, c'est aussi ceux qui ont un regard sur les choses. Mais ces gens ne sont pas payés. Hein, quand ils donnent leurs avis, on vient leur prendre des heures pour qu'ils donnent leur avis dans des réunions. Les gens qui organisent les réunions, ils sont payés, pas les gens qui donnent leurs avis.
Ce qui nécessite donc en plus d'avoir du temps et d'avoir l'énergie de s'y intéresser. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, notamment une femme, une mère isolée avec trois enfants, c'est compliqué. C'est des personnes c'est compliqué d'avoir accès et pour qui c'est déjà compliqué de se loger. Donc le problème du renouvellement urbain, c'est que derrière, ça coûte plus cher généralement puisque c'est neuf.
Diane.
Moi ça m'a fait penser, en ce moment moi je suis en formation pour être, enfin je suis en alternance pour être conseillère en insertion professionnelle, et un des premiers travaux qu'on nous demande de faire en alternance etc, c'est un diagnostic de territoire. Donc en gros t'es dans tel, je sais pas, t'habites à La Rochelle, qu'est-ce qui existe comme structure à La Rochelle en termes d'insertion, de logement, de santé etc. Mais du coup, c'est hyper intéressant que dans la construction de logements, ils ne disent pas juste « bon, on va faire des logements, voilà, c'est fini, et voilà ». Mais d'avoir aussi une structure associative, un lien associatif. Et en plus de ça, c'est un sujet qui est de plus en plus actuel, puisqu'on a les municipales en 2026, en mars. Allez voter, s'il vous plaît. On va essayer de ne pas avoir des communes extrême droite en France.
Je ne suis pas inscrite sur les listes parisiennes.
Je
vote à Saint-Maurice.
Non, mais je trouve que du coup, c'est intéressant de questionner l'ensemble d'un territoire et d'une population.
Violette.
Je trouve le sujet hyper intéressant, hyper d'actu, avec une grosse crise du logement partout en France. Et au-delà de ça, comme tu disais, des barres d'immeubles qui ont très mal vieilli. Des quartiers vraiment où personne n'a envie d'aller vivre, c'est normal. Donc, sujet hyper d'actu. Je me demande, est-ce que cette expo est uniquement au Trocadéro ou est-ce qu'il y a des petites versions dans les quartiers concernés ?
Joker, je crois que vous en parlez pas.
Ok. ça va, je me dis que ça, tu vois, ça pourrait être intéressant aussi de se rapprocher des territoires concernés, quoi, parce que c'est vrai qu'au Trocadéro, tu vois,
mais pour le coup, ils ont consulté les territoires, c'est-à-dire que les architectes, les ingénieurs, ils ont fait le tour avec les petits des écoles, ils sont allés voir des structures associatives, des vies de quartier, etc. Enfin, c'est un travail de co-construction, c'est comme ça qu'on appelle ça, co-construction. Vladimir.
Bah oui, bah alors moi, cette histoire-là, ça me rappelle un projet qu'on avait monté, un projet d'action culturelle dans la structure dans laquelle je travaillais avant, où en gros, ils allaient rénover des barres d'immeubles dans un quartier prioritaire de Hasbrouck, dans le Nord. Je sais pas si vous connaissez, magnifique ville.
Et, pas loin de Dunkerque.
Ouais, c'est ça. Et du coup, en fait, là-dedans, ils voulaient détruire une des trois grandes tours d'immeubles et ils demandaient à des artistes, du coup, de récolter un peu des avis des habitants, de comment c'était la vie, etc., pour en faire une espèce d'album, pour essayer de faire une grande fête à l'occasion de cette relocalisation. Donc c'est à la fois une immense violence et on avait l'impression que ce projet-là, c'était aussi pour faire un peu avaler la pilule aux gens, parce que c'est un événement quand même assez traumatique. On va détruire une barre d'immeuble dans laquelle vous avez vécu depuis je sais pas combien de temps, vous relocaliser dans les endroits qui seront prévus pour, etc. Et en attendant, on va faire un petit projet culturel et tout. Donc ce genre de projet qui peut parfois être bien pensé et vraiment venir de bonnes intentions, dans le fond, l'exécution parfois, elle est vraiment beaucoup plus complexe que ça, parce qu'il y a des intérêts politiques, des intérêts économiques, et c'est parfois un peu compliqué. Donc cette exposition, elle a l'air très intéressante, mais ça parle de la préparation de l'après, et donc du coup ça sera, je pense, très intéressant peut-être de regarder comment est-ce que les projets vont vraiment se réaliser, quoi.
Merci à tout le monde autour de la table. Merci à l'Expo Quartier de demain dans le 16e place du Trocadéro, à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine jusqu'au 30 mars. C'est dans l'art, touche à sa fin pour ce soir. Retrouvez-nous sur radiocampusparis.org, sur le DAB+ et sur le 93.9 FM. Merci à vous toutes et tous autour de la table, Diane, Hortense, Hugo, Violette, Vladimir, pour vos chroniques et vos réactions. Merci Léa à la technique. Léa au mois de retour dans 4 semaines à l'animation. La soirée continue sur Radio Campus Paris. Vous pouvez nous réécouter sur radiocampusparis.org, les plateformes de podcast. Suivez-nous aussi sur Instagram. C'est dans l'art, RCP, tout attaché. Portez-vous bien et vive l'art sous toutes ses formes.
Retrouvez C'est dans l'art, le magazine d'actualité culturelle sur radiocampusparis.org et sur toutes les plateformes de musique à la demande.